bonsoir à tous. Merci d'avoir d'être venus pour cette nouvelle conférence. On essaie de, vous le savez, c'est toujours un peu notre principe, essayer d'élargir au plus grand notre temps. Ce soir, nous n'avions pas encore eu cet habit si particulier et si beau que porte Sœur Marie-Emmanuel, qui est notre conférencière de ce soir. Vous le savez, l'année 2017 est un millésime extrêmement riche en anniversaire, en centenaire. On vient de fêter 1217, hein, on va continuer à fêter donc, le 8e centenaire de l'arrivée des frères en France pendant toute l'année. Et en particulier, on a eu ce colloque rue Marie-Rose il y a quelques jours. On fête aussi le 8e centenaire de la naissance de Bonaventure, donc beaucoup de 8e centenaires cette année. Et rue Marie-Rose, on est plusieurs à s'être dit que finalement, on n'avait pas encore entendu beaucoup parler de l'Annonciade, qui fait pourtant partie de la famille franciscaine. C'est un peu le rameau marial de la famille franciscaine, l'expression mariale du charisme franciscain. Or, il se trouve que parmi nos anniversaires, il y en a un aussi qui concerne la famille l'Annonciade. Il se trouve que 1517 marque l'année à laquelle a été promulguée la règle définitive de l'Annonciade, c'est-à-dire la règle sur laquelle, qui est un peu le point d'appui de la vie au quotidien de Sœur Marie-Emmanuel et de sa sœur qui est aussi, qui l'a accompagnée ce soir. Je crois d'ailleurs que Mère Ancel, qui est c'est la baisse hein, dans le monde clarisme, mais c'est la Mère Ancel Ancilla, la servante, hein, chez les Annonciades. Eh bien, la mère Ancel, je crois, aurait souhaité être parmi nous. Oui, et puis, finalement, un dernier empêchement de dernière minute. Oui, c'est ça, le service des sœurs qui fait qu'on est bloqué au monastère. Oui. Alors, Sœur Marie-Emmanuel, quelques mots sur vous. Vous êtes archiviste au monastère de l'Annonciade. Vous êtes moniale de l'Annonciade. Vous direz d'accord. Peut-être depuis combien de temps tout à l'heure. Vous êtes archiviste et vous êtes un peu la mémoire ou une des mémoires aussi, oui, de l'Annonciade. En 2002, est paru à l'occasion du 5e centenaire de la fondation de l'Ordre de l'Annonciade, hein, est paru un ouvrage, résultat d'un colloque, Jeanne de France et l'Annonciade. Eh bien, ce colloque, il y a des tas de gens qui y ont participé, mais je sais ce que c'est, moi, d'essayer d'établir des actes d'un colloque. Je vous assure que c'est un travail extrêmement long, extrêmement difficile, il faut harmoniser des tas de choses et tout. Et on n'aurait jamais ce livre-là entre les mains s'il n'y avait pas eu derrière Sœur Marie-Emmanuel. Mais si, je dis que la stricte vérité, il faut parfois les dire les vérités. Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Il y a de multiples travaux que vous avez même écrits dans la revue, la grande revue scientifique de l'Ordre, l'Archivum Franciscanum Historicum, pour défendre la mémoire du Père Gabriel Maria, hein, qui est le cofondateur de l'Ordre de l'Annonciade. Et je crois qu'un des grands désirs qu'on peut partager ce soir, finalement, que oui, vous avez, c'est de parvenir à la béatification, facile, la canonisation du frère Gabriel Maria, qui est une grande figure de l'observance franciscaine, mmh, et qui a, avec Jeanne de France, cofondé l'Ordre de l'Annonciade. Et donc, vous avez beaucoup travaillé à l'établissement du dossier, hein, ces cartons qu'on a envoyés à Rome, plein de documents pour défendre la mémoire du Père Gabriel Maria. Mais je pense aussi à un ouvrage comme ça, je suis persuadé que vous y êtes aussi pour quelque chose. C'est un ouvrage qui rassemble un peu le totum de l'Annonciade, avec tous les textes, hein, la vie de Jeanne de France, la vie de Gabriel Maria, les règles, enfin, oui, les statuts. Je vous signale que c'est très bien fait. Le totum de l'Annonciade existe également. Voilà. Bon, je crois que j'ai certainement oublié des tas de choses, mais je peux vous dire moi, je suis particulièrement très heureux de vous accueillir ce soir ici et très heureux que l'on parle de ce 5e centenaire, que vous nous parliez de cette règle qui vous fait vivre et qui pourrait aussi peut-être intéresser les frères qui sont là et nous tous.
Merci. Bien. Ben, merci Pierre. Merci. Bravo. Ben oui, effectivement, un anniversaire, ça se fête. Et bon, je passe ce que Pierre a dit, hein, Mais enfin, je pense qu'il est heureux qu'effectivement que l'Annonciade le commémore en ce lieu franciscain, vu ses racines franciscaines. Donc moi aussi, effectivement, je suis assez heureuse de que ça puisse se faire dans un tel lieu. Alors, le sujet, donc, c'est notre règle sous laquelle nous vivons. Donc cette règle a été écrite en 1517 par le franciscain le bienheureux Père Gabriel Maria. Cette règle de vie est en réalité la troisième mouture du texte que Sainte Jeanne de France, donc la fondatrice de l'ordre, a demandé à Gabriel Maria d'écrire pour l'ordre qu'elle a fondé à Bourges en 1502. Donc aujourd'hui, cette règle de 1517 est toujours une source d'inspiration et de vie, non seulement pour les moniales annonciades, mais aussi pour tous ceux et celles qui partagent le charisme de l'ordre et pour les deux congrégations religieuses qui s'en inspirent. Je veux parler donc des annonciades apostoliques de Belgique et des pères mariens qui s'inspirent effectivement de cette règle de vie. Alors, après quelques mots sur l'auteur du texte et celle qui l'a inspiré, j'aborderai la genèse de ce texte. Puis je montrerai combien ce texte se situe dans le prolongement d'un regard, celui que François et sa postérité posaient sur la Vierge Marie. Je décrirai enfin à grands traits l'itinéraire spirituel proposé dans cette règle de vie, soulignant en terminant son caractère prophétique. Voilà en quelques mots le résumé de ce que je vais développer. Alors le rédacteur du texte, donc, c'est Gilbert Nicolas, connu sous le frère Gabriel Maria dans l'ordre franciscain. Il est né en Auvergne, à Rion, entre 1460 et 1462. Un sermon d'un religieux franciscain sur l'Immaculée Conception éveille en lui l'appel à la vocation religieuse. Il décide alors d'entrer chez les frères mineurs de l'Observance au couvent de La Rochelle. Son temps de formation terminé, il enseigne durant une vingtaine d'années la théologie. Je passe rapidement parce que comme ce n'est pas le cœur du sujet, mais c'est pour dessiner la toile de fond. Voilà. Dans les années 1495, il devient le confesseur et le conseiller spirituel de Jeanne de France. Il va la seconder dans la fondation de l'Annonciade, devenant véritablement le cofondateur et le législateur de son ordre. Au cours de sa vie, il présidera même à la fondation de 8 monastères d'Annonciade. Au sein de l'ordre franciscain, on lui confie d'importantes charges, ce qui l'amène à parcourir l'Europe. Sa sagesse et son souci de la paix sont notoires, ainsi que sa miséricorde. Ces différentes charges le conduisent à visiter les couvents des frères et des sœurs de son ordre, ce qui le met au cœur des problèmes que traverse à cette époque sa famille religieuse. Il prend aussi le temps d'écrire. Il écrit ainsi un commentaire de la règle de Saint François, des traités de dévotion mariale pour des confréries de personnes laïques et la règle de l'Annonciade, bien sûr, et une autre règle pour des sœurs tertiaires franciscaines, les sœurs franciscaines de Château-Gontier. Il écrit également un traité de théologie, le Lunete Confessorum. C'est un traité sur la confession destiné aux confesseurs de son ordre. Son attachement à l'Eucharistie, à la Passion du Christ, au Saint-Nom de Jésus et de Marie, à la paix, s'inscrit dans la tradition franciscaine, donc des 14e et 15e siècles, marquée par le bienheureux Don Scott et les grandes figures de l'observance telles Saint Bernardin de Sienne. Mais surtout, le Père Gabriel Maria se distingue par son amour de Marie. Ainsi, sa vie mariale et sa formation théologique l'ont préparé à comprendre en profondeur le charisme de Sainte Jeanne. Il meurt en odeur de sainteté à Rodez en 1532. Son culte se répand dans l'ordre de l'Annonciade et des frères mineurs. Et effectivement, actuellement, sa cause de béatification est en feu. Voilà pour l'auteur du texte de 1517, donc, que nous commémorons l'anniversaire. Celle qui a inspiré ce texte, quelques mots, peut-être que plusieurs connaissent Sainte Jeanne, mais quelques mots pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Sainte Jeanne, donc, elle est la fille de Louis XI et de la reine Charlotte de Savoie. Elle est née le 23 avril 1464. À 5 ans, Jeanne, qui souffre d'un handicap physique, certainement une scoliose déformante, est éloignée de la cour et envoyée au château de Lignières en Berry. Là, dans la chapelle du château, la petite fille, elle doit avoir 7 ans, reçoit de Dieu l'inspiration qu'un jour elle fondera un ordre religieux dédié à Marie et qui sera gouverné par les frères de l'observance. Les années vont passer. En 1476, son père la marie à Louis d'Orléans, un mariage politique que Louis d'Orléans n'acceptera jamais. Vont suivre pour Jeanne 22 ans de vie conjugale bien difficile et bien bouleversée. En 1498, le roi Charles VIII, qui a succédé à Louis XI, meurt subitement, et c'est le mari de Jeanne, Louis d'Orléans, qui succède à Charles VIII. Le premier acte officiel du nouveau roi est de demander à Rome la nullité de son mariage avec Jeanne. Un procès en nullité va s'en suivre, et donc Louis d'Orléans, qui va, Louis du XII, pardon, qui va avoir gain de cause à l'issue de ce procès, va épouser la veuve du roi défunt, Anne de Bretagne. Raison d'État oblige. Je ne peux pas aller dans les détails, mais c'est tout à fait une affaire politique. Et Jeanne devient donc duchesse de Berry. Elle fonde donc en 1502, avec l'aide de Gabriel Maria, l'Annonciade. Elle meurt le 4 février 1505. Béatifiée en 1742, elle est canonisée en 1950. Toute sa vie, Jeanne a été proche du milieu franciscain. Son choix personnel de choisir comme directeur de conscience un frère mineur s'enracine dans une longue tradition familiale. Dans sa parenté, tant du côté paternel que maternel, on trouve des frères et sœurs faisant partie de l'ordre franciscain. De plus, le climat religieux de son temps se prête à un tel choix, marqué qu'il est par l'influence de deux courants spirituels proches l'un de l'autre, la Devotio Moderna et l'observance franciscaine. Les tenants de la Devotio Moderna ont en commun avec les frères observants une dévotion au Christ crucifié, à l'Eucharistie, à la Vierge Marie. Ils pratiquent les vertus chrétiennes, se dévouent au service du prochain, s'attachent à la personne du Christ. Tout cela se vérifie en Jeanne de France. Voilà esquissé rapidement le portrait des deux fondateurs de l'Annonciade. J'en viens maintenant aux origines du texte. Un jour de l'année 1499, Jeanne de France révèle à Gabriel Maria le désir qui l'habite depuis son enfance, fonder un ordre religieux dédié à Marie. Dans un premier temps, le père, faisant de œuvre de prudence, est réticent. Il lui montre les difficultés d'une telle entreprise et lui dit que de plus l'Église, depuis les décisions du 4e concile de Latran en 1215, n'accepte pas de nouvelles règles de vie religieuse. Cependant, dans un second temps, après que Jeanne lui a révélé la manière dont est né le désir en son cœur de fonder un nouvel ordre, il reconnaît, en homme spirituel qu'il est, le caractère surnaturel de ce désir et promet à Jeanne de l'aider. Connaissant les voies de la vie mystique, il a bien perçu que Jeanne n'a pas eu seulement la révélation de fonder un ordre, sans avoir eu en même temps quelques lumières concernant la règle de vie des futures religieuses. Il l'interroge donc à ce sujet. Jeanne lui apprend qu'en effet, un jour où elle priait Marie, elle lui demandait dans la prière comment devaient vivre ses futures religieuses, elle reçut en elle cette parole. « Fais écrire en une règle tout ce qu'écrit de moi dans l'Évangile et trouve moyen de la faire approuver par le siège apostolique. » Entendant ce que lui dit Jeanne, Gabriel Maria lui dresse alors une sorte de feuille de route. Il faut écrire la règle, aller à Rome pour la faire approuver, obtenir le congé du roi pour qu'elle puisse fonder un premier monastère. Pour ce qui est du congé du roi, Jeanne lui dit qu'elle s'en occupera, mais pour le reste, elle compte sur Gabriel Maria. Celui-ci s'engage donc à écrire cette règle de vie afin que, dit-il, il puisse faire quelque chose qui sont pour l'honneur de Dieu et de sa très digne mère et pour le salut des âmes qui auront à la garder. Fin 1501, début 1502, ayant terminé sa rédaction, Gabriel Maria confie à un de ses frères la charge d'aller à Rome afin de la présenter au souverain pontife. Le frère échoue dans sa démarche, essuyant un refus de la part des cardinaux, et de plus, sur le chemin de retour, il perd le document. Gabriel Maria se remet au travail, et par lui-même, cette fois-ci, la faire approuver par Rome. Après pas mal de difficultés, la règle est finalement approuvée le 12 février 1502. Les sœurs vont vivre sous cette règle de vie jusque dans les années 1514-1515. À cette date, Jeanne est décédée depuis une dizaine d'années. Gabriel Maria est alors vicaire général sismontain de l'observance. À ce titre, il participe au chapitre général de son ordre, célébré à Anvers. Au cours de ce chapitre, les pères capitulaires ont dû se préoccuper de l'avenir de deux ordres de moniales qui font partie de leur famille religieuse et dont la fondation est relativement récente, les conceptionnistes d'Espagne et les annonciates de France. En effet, leur avenir a été fragilisé par le décès de leur fondatrice, Béatrice de Silva pour les conceptionnistes et Jeanne de France donc pour l'annonciade. L'idée de les fusionner a-t-elle germé durant ce chapitre ou bien cette fusion faisait-elle partie de l'ordre du jour? Ça, je ne sais. Quoi qu'il en soit, elle a fait son chemin dans les esprits, si bien que le pape Léon X va demander à Gabriel Maria et avec d'autres de rédiger une règle commune afin de faire de ces deux ordres un seul ordre qui prendrait le nom de « Ordre de la Vierge Marie ». Cette règle, dite seconde règle, est approuvée le 22 mai 1515. Les annonciades étaient certainement prêtes à accepter cette fusion. Elles ne devaient pas être trop désorientées, en effet, par le texte de 1515, vu qu'elles y retrouvaient les éléments essentiels contenus dans leur règle primitive, ce qui n'était peut-être pas le cas des conceptionnistes. Celles-ci vont donc refuser la fusion, ce qui pousse Gabriel Maria à rédiger un troisième texte pour les seules annonciades. Le texte est approuvé par le pape Léon X le 25 juillet 1517 et il régit toujours l'ordre de la Vierge Marie. L'annonciade donc. Les trois textes écrits par Gabriel Maria ne constituent pas trois règles de vie différentes, mais une seule règle dont la rédaction s'est échelonnée sur trois étapes en raison des circonstances. Au cours de ces trois rédactions, Gabriel Maria affine son texte, il l'ordonne, précise tel ou tel point concernant l'organisation de la vie conventuelle. Le texte de 1502 est comme un premier jet où affleure la fraîcheur du charisme de Jeanne. La seconde rédaction et la troisième sont plus ordonnées. Elles se ressemblent avec cependant quelques différences. Dans la règle de 1517, on voit réapparaître la notion de « plaisir de Dieu » présente dans le texte de 1502, si essentielle pour Jeanne et qui avait disparu du texte de 1515. Dans cette même règle de 1517, on voit aussi réapparaître un prologue dans lequel Gabriel Maria donne l'itinéraire spirituel qu'il va développer et ce prologue avait disparu du texte de 1515. Mais les trois textes ont bien le même sujet, la même structure, la même forme de composition. En 10 chapitres, Gabriel Maria décline 10 vertus de Marie qu'il a repérées dans les passages évangéliques où il est question de la Vierge. La pureté, la prudence, l'humilité, la foi, la prière, l'obéissance, la pauvreté, la patience, la charité et la compassion. Chaque vertu fait l'objet d'un chapitre. Chaque chapitre est construit de la même manière en trois parties. Après avoir rappelé les passages évangéliques en rapport avec la vertu traitée, Gabriel Maria en tire des règles de conduite pour les sœurs, pour leur vie personnelle, et des règles de conduite pour la vie communautaire. En choisissant les vertus de la Vierge comme fondement de vie spirituelle, Gabriel Maria propose Marie comme exemple, comme modèle aux futures annonciades. Il sait que par là, il répond au désir de Jeanne. Celle-ci, en effet, lorsqu'on lui demandait quel saint patron elle voulait pour ses filles, elle disait ce que, dit-on, saint François répondait. François voulait que ses frères n'aient que Jésus et le Saint-Évangile. Ainsi, mes sœurs, disait-elle, n'auront à suivre que la Vierge Marie et sa vie rapportée au Saint-Évangile. Il comprend alors, et il le dit à Jeanne, que la forme de vie de ses futures religieuses ne peut avoir comme source d'inspiration que la Vierge. La Vierge sera le modèle qu'elles devront regarder, l'exemple qu'elles devront suivre. L'ordre de la Vierge Marie, qui sera nouveau, dit-il à Jeanne, et que vous voulez fonder, ne pourra avoir d'autres modèles et d'autres exemples que la seule Vierge Marie. Pour lui, c'est donc l'exemple marial qui donnera une forme de vie aux futures religieuses de l'ordre de Jeanne. En présentant la Vierge comme celle qui conduit à vivre selon l'Évangile, Gabriel Maria ne se place-t-il pas comme dans le prolongement d'un regard, celui que François posait sur la Vierge? En effet, si l'on en croit saint Bonaventure, François avait demandé à Marie de devenir son avocate afin que par ses mérites il puisse concevoir et enfanter l'esprit de vérité évangélique. La Vierge est donc aux yeux de François celle qui peut lui montrer comment vivre authentiquement sa vie de chrétien. Pour essayer de le montrer, je prendrai comme exemple ce très beau texte de François, la salutation à la Vierge. Dans la salutation à la Vierge, François s'adresse directement à Marie. « Salut, dame, reine sainte, sainte mère de Dieu, choisie par Dieu, consacrée par son très saint fils bien-aimé et l'Esprit Saint Paraclet, en qui furent et sont toute plénitude de grâce et tout bien. Elle est aussi la Vierge, faite Église, une expression qui donne tout son sens, toute sa densité à cette salutation. » Car si la Vierge est devenue Église, alors l'Église possède en la Vierge un modèle. Tout baptisé est donc appelé, comme elle, à recevoir le Christ et à le donner au monde par les œuvres bonnes. Dans sa lettre à tous les fidèles, François écrit à ce sujet « Nous sommes ses mères quand nous le portons dans notre cœur et notre corps par l'amour divin et par une conscience pure et sincère quand nous l'enfantons par un saint ouvrage » qui doit luire en exemple pour les autres. Si la salutation s'adresse bien à Marie, elle s'adresse également aux fidèles. On le déduit par la manière dont François la termine. Et salut à vous toutes, sainte vertu, qui par la grâce et l'illumination de l'Esprit Saint est répandue dans les cœurs des fidèles pour faire d'infidèles des fidèles à Dieu. En mettant en œuvre dans leur existence les vertus, les fidèles deviennent comme la Vierge, porteurs du Christ. Pour François, les vertus ne sont pas des exercices moraux, mais des dons reçus de Dieu et qui en nous mettent la vie en mouvement. En Marie, François discerne toutes les vertus de la vie chrétienne. En Marie, simple et pure, il contemple, comme dans un tabernacle, celui qui est tout bien. Dans ce texte, François laisse affleurer, il me semble, deux notions que sa postérité va développer, de l'expression « en qui furent et sont toute plénitude de grâce et tout bien » affleure l'idée de l'excellence de Marie. De l'expression « Vierge faite Église » affleure l'idée de son exemplarité. En effet, à la fin du Moyen-Âge, l'influence exercée par les thèses de Don Scott concernant l'excellence de la Vierge et par là son Immaculée Conception est grande. À l'époque de Gabriel Maria, l'observance franciscaine dans son ensemble le suit dans ses positions immaculistes. Les prédicateurs franciscains de ce temps s'en font l'écho. Cependant, admettre que Marie soit immaculée dans sa conception, c'est aussi reconnaître qu'en elle réside toute vertu, qu'en elle réside tout ce qui peut plaire parfaitement à Dieu. En conséquence, suivre son exemple ne peut être qu'un chemin sûr pour aller à Dieu. Cette idée que la Vierge peut être un exemple à suivre se trouve sous la plume de certains prédicateurs franciscains, tels saint Bernardin de Sienne. Ainsi, dans un de ses célèbres sermons, prononcé à Sienne au cours du carême 1427, il présente les vertus qui accompagnent la Vierge Marie de manière allégorique, c'est-à-dire comme des dames formant la cour de la Vierge Marie, dame clôture, dame humilité, etc. Il construit son sermon en citant la parole évangélique qui sert d'appui à l'évocation de la vertu, puis il évoque ce qu'il faut faire concrètement. Gabriel Maria, dans la composition de la règle des Annonciades, procédera de la même manière. Mais avant Bernardin, il y a eu saint Bonaventure lui-même, car l'idée d'exemplarité mariale se trouve bien de temps à autre sous sa plume. Dans un de ses sermons pour une fête de l'Épiphanie, il invite à imiter la mère du Christ, car elle est le modèle de toute vertu chrétienne. De même, dans un petit opuscule sur les cinq fêtes de l'enfant Jésus, en arrivant à la cinquième fête, qui est celle de la présentation de Jésus au Temple, il établit un parallèle entre l'âme dévote et la Vierge, considérant cette âme comme étant Marie en esprit. Marie en esprit qui présente au Père son Fils Jésus. De même, dans ses conférences sur les sept dons du Saint-Esprit, cette idée de conformité à Marie est présente. Consacrant trois de ses sermons sur la Vierge, lorsqu'il aborde les dons de force et de conseil, il présente la Vierge comme un exemple à suivre. Tout homme qui veut être saint doit suivre la Vierge glorieuse dans la sainteté d'une pureté non corrompue, d'une prompte obéissance et d'un dévouement total. Ô quelle pieuse mère nous avons, configurons-nous à notre mère et suivons sa piété. On trouve encore cette idée d'exemplarité mariale dans d'autres œuvres du saint, telle une lettre écrite à un frère très cher. Après lui avoir décrit un véritable itinéraire spirituel, il termine sa lettre par une invitation à suivre les traces de la Vierge. Et en tous tes besoins, dans tes peines, recours à elle comme au plus sûr des refuges, lui demandant le secours de sa protection. Prends-la pour avocate. Avec grande dévotion et confiance, remets-lui le soin de tes affaires. Et pour que ta dévotion soit favorablement accueillie, pour que tes hommages lui soient agréables, conserve en toi l'éclat de sa pureté en écartant toute souillure d'esprit et du corps. Par la pratique de l'humilité et de la douceur, efforce-toi de marcher sur ses traces. Dans son traité, l'Apologie des pauvres, Bonaventure écrit encore « Ô Vierge très sainte, si tu es comme l'exemplaire de toute perfection proposée à l'imitation des parfaits dans ton humble virginité, tu l'es aussi dans le dénuement de ta pauvreté. » Par ce qui vient d'être dit, on voit se profiler ce que Gabriel Maria va mettre en lumière dans la règle des Annonciades. Sur le chemin de ce qui plaît à Dieu, prendre la Vierge comme modèle, la suivre en ses vertus. Plaire à Dieu, suivre le Christ, en prenant exemple sur la Vierge des Évangiles. Telle est l'intuition de Jeanne de France que Gabriel Maria met en lumière dans la règle de vie qu'elle lui a demandé de rédiger. À travers cette règle de vie, Gabriel Maria propose au monial Annonciade l'union à Dieu en suivant la Vierge dans son pèlerinage de foi. En déclinant en 10 chapitres 10 vertus de Marie, il trace un itinéraire spirituel ordonné selon les 3 voies de la vie spirituelle. Ainsi, le premier pas à faire est celui de la conversion. Cette conversion commence par le fait de se retourner vers Dieu et retrouver le chemin de l'intériorité en vivant dans la sobriété, c'est la vertu de pureté, de la garde du cœur, de la vigilance. La sœur Annonciade est invitée à garder non seulement la clôture matérielle, mais aussi celle du cœur, ne donnant permission à aucune vanité d'entrer par les fenêtres des sens, ni à son cœur de se répandre au dehors par ses affections, mais vivant au-dedans d'elle-même, en aimant Jésus de tout son cœur et de tout son pouvoir. Cette vertu aide à regarder les biens de la terre du point de vue de Dieu, prenant du recul par rapport aux biens, aux personnes, les regardant selon Dieu et dans sa lumière. On est donc loin d'une vertu de pureté étriquée. On ne pêche pas dans ses actions ou en son cœur, en son esprit ou par ses paroles, quand on a le cœur tourné vers Dieu. Le regard sur Dieu, sur la Vierge, permet de resituer les choses créées, toutes créatures, selon leur vraie place dans la création voulue par leur Créateur. Se tourner vers Dieu, c'est donc par le fait même tourner le dos à tout ce qui pourrait déplaire à Dieu, en pensée, parole et action. C'est la seconde vertu, la vertu de prudence, qui est vue par Gabriel Maria comme la vertu de sagesse. Et pour lui, la sagesse consiste à plaire à Dieu dans le concret de l'existence. Par exemple, dans ce second chapitre, il est dit que la prudence est une vertu qui pousse à parler peu et toujours à bon escient. Il faut donc fuir les vaines paroles et préférer le silence. À l'exemple de Marie, les sœurs, pour plaire au Christ et à la Vierge, ne doivent pas parler à la légère, mais être lentes à le faire. La prudence est aussi une vertu qui pousse à faire le point sur sa vie. Ainsi, les sœurs doivent examiner continuellement en leur cœur comment elles observent la règle de la Vierge Marie et si leur vie se trouve pure et agréable au regard de Jésus. La prudence est encore la vertu du discernement, du choix du bien, quand le mal est à notre porte. Et pour Gabrielle Maria, de ce péché tapis à la porte du cœur, on triomphe plus facilement par la fuite que par le combat. Cette sagesse ou cette prudence permet de voir ce qui est essentiel, donc de fuir ce qui ne l'est pas. C'est discerner comment plaire à Dieu et le servir au quotidien en toute humilité. L'humilité est donc la vertu suivante. Elle est présentée comme la vertu du oui, d'un oui simple et vrai, comme la vertu de l'oubli de soi, du service, de la disponibilité, à l'exemple de la Vierge qui a dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Cette vertu d'humilité ouvre la porte sur la vie de foi, où l'être intérieur est éclairé, sur la vie de prière, où l'être intérieur est réconforté. La foi, en effet, jette une lumière sur la manière de conduire sa vie, de se comporter. Voilà pourquoi les sœurs, si elles veulent plaire à Dieu, doivent être fortes dans la foi, parce que, dit le texte, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Les sœurs manifesteront cette foi par de bonnes œuvres. Ces œuvres bonnes sont une manière pour elles de concevoir Jésus, de le donner au monde. Par la foi, elles croient aussi avec leur intelligence et leur cœur tout ce que leur dit l'Église, tout ce que l'Église croit. Et ce consentement éclaire la vie, donne une orientation aux attitudes, aux comportements. La foi conduit à suivre le Christ à l'exemple de la première chrétienne, Marie. Voilà pourquoi le Père Gabrielle Maria place cette vertu de foi en quatrième place après les vertus dites, entre guillemets, purgatives, celles qui nous aident à nous éloigner du péché, la pureté, prudence et humilité, la mettant en tête des vertus dites illuminatives, c'est-à-dire celles qui éclairent la conscience, orientent l'existence vers la suite du Christ, à l'imitation de Marie. Quant à la vertu de prière en ses divers aspects, louange, prière personnelle, prière communautaire, prière liturgique, elle est vue par Gabrielle Maria comme un véritable travail. Les sœurs, dit-il, pour plaire au Christ, doivent par-dessus tout apprendre l'art et la science de la louange divine et de l'oraison. La fréquentation de la parole de Dieu est également importante pour lui, puisque la sœur qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. La vertu de prière, en travaillant l'être intérieur, pousse à bien agir, à agir en conformité au Christ. Les vertus suivantes d'obéissance, de pauvreté, de patience vont développer ce thème du bien agir afin de suivre les traces du Christ à la manière de Marie. Les œuvres bonnes sont l'expression bien concrète de cette vie de foi et de cette vie de prière. Elles authentifient, pour ainsi dire, la vie de foi et la vie de prière. L'obéissance est donc la vertu suivante, celle du don total de soi, pour Dieu, en vue de Dieu. Ainsi, les annonciables doivent toujours se rappeler qu'à leur entrée en religion, elles ont pour Dieu renoncé à leur volonté propre. En effet, sans ce don total, cette démaîtrise ou cette déposition de soi entre les mains d'un autre, on ne pourrait guère aller loin sur le chemin de l'union, sur le chemin du véritable amour. Tout donner, se donner, devenir des pauvres en esprit. La pauvreté suit donc la vertu d'obéissance. Les sœurs doivent aimer et garder avec soin la perle évangélique de la pauvreté. Ainsi que des pèlerins, elles habiteront dans leur monastère comme dans un domicile qui ne leur appartient pas. Leurs monastères et édifices seront construits sans recherche ni somptuosité. La pauvreté est la vertu du renoncement, du détachement. Sur ce chemin à la suite du Christ pauvre, il faut durer. Durer dans le désir de s'unir à ce Christ pauvre et tout aimant. Après la pauvreté vient donc la vertu de patience, qui est la vertu du long désir. du désir de la ressemblance et de l'union avec celui à qui on a donné sa vie. Ce désir d'union se réalise au cœur même du réel de l'existence, de ce réel heureux, mais aussi et surtout de ce réel marqué de difficultés. Une expression de la règle le laisse entendre. Les sœurs doivent désirer souffrir quelque chose pour le nom de Jésus, c'est-à-dire faire des inévitables épreuves aux contrariétés de la vie un chemin de Dieu, un chemin vers Dieu. Y déceler sa présence, ce n'est ni facile ni évident. Mais le travail secret de l'Esprit Saint dans l'âme peut faire comprendre cela ou conduire à en faire l'expérience. C'est pourquoi la vertu de patience est également vue comme le temps de la quête du Christ, le temps où se noue une réelle amitié avec Jésus. Que les sœurs persévèrent à chercher Jésus, dans une pieuse plainte, elles doivent causer familièrement avec Jésus et lui poser des questions, comme les épouses ont l'habitude de faire avec leur époux. La patience est le temps de l'enracinement en Dieu. Elle conduit au véritable amour, à la charité. La charité vraie s'enracine dans l'amour du Christ. Les sœurs doivent nourrir Jésus de leur sainte affection. Cet amour du Christ se vérifie dans leurs relations fraternelles au quotidien, faites de paix, d'excuses et de pardon. Que les sœurs fassent donc tous les jours le serment de la paix, c'est-à-dire qu'elles établissent toujours la paix entre elles, réconciliant celles qui seraient en contestation, les excusant toutes et se faisant toujours les avocates de la paix, qu'elles pardonnent facilement aux autres leurs offenses. Cette vie de charité conduit à la compassion, et particulièrement à la compassion pour Jésus crucifié. Cette vertu de compassion est présentée comme le bouquet de myrrhe dont parle le texte biblique du Cantique des Cantiques. C'est ainsi que les sœurs doivent porter constamment dans leur cœur le bouquet de myrrhe, c'est-à-dire elles doivent garder en leur cœur le souvenir, la mémoire de la passion du Christ, car c'est par la porte de Jésus crucifié qu'elles parviendront à goûter dès ici-bas la véritable union avec Dieu et entrer en communion avec leurs frères en humanité. Tout au long de cet itinéraire qui demande de la persévérance, la Vierge Marie est comme la compagne de route. Gabriel Maria invite à la regarder comme l'étoile qui montre une direction. Il invite à la considérer comme celle qui éclaire la vie de qui veut plaire à Dieu. Pour la définir dans ce rôle, il emploie plusieurs termes. Elle est le modèle, c'est-à-dire l'exemple à suivre. Elle est la règle, c'est-à-dire la norme de la vie, la norme de vie, la référence, le repère. Elle est l'oracle, c'est-à-dire celle qui parle à notre cœur de la part de Dieu à la manière du prophète biblique. Mais elle n'est pas le but. Le but, et Gabriel Maria a le soin de le rappeler à chaque chapitre de la règle, est de plaire à Dieu, de faire ce qui plaît à Dieu. Cela demande effort et étude. N'ayez nulle autre étude, dit-il, n'ayez d'autre souci que de plaire à Dieu en pensée, parole et action. Et le moyen de plaire à Dieu, de plaire au Christ, c'est de suivre Marie, d'essayer au jour le jour d'entrer dans les dispositions de son cœur, non pas d'une manière extérieure, mais selon une inspiration profonde de la volonté, à la manière dont parle saint Paul, quand il dit « Ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus ». Imiter Marie, ce n'est pas la copier, mais c'est entrer dans les dispositions de son cœur avec ce que nous sommes. Et le moyen, le seul pour Jeanne et Gabriel Maria, de reconnaître les dispositions du cœur de Marie, c'est l'Évangile, les pages d'Évangile qui parlent d'elle. Cet aspect de la Vierge modèle, de la Vierge éducatrice, que la règle de l'Annonciade met en lumière, annonce ce que Vatican II développera 5 siècles plus tard dans la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, en son chapitre 8e consacré à Marie. En ce chapitre, en effet, Marie est présentée comme le modèle de l'Église, comme le miroir, où se révèle son mystère de vie et de sainteté, comme un guide conduisant les fidèles à une compréhension exacte du mystère du Christ. En réponse au prologue de la règle de l'Annonciade, « Que la Vierge soit votre modèle, n'ayez nulle autre étude que de plaire parfaitement à votre époux par l'imitation de la Vierge », le Concile invite les fidèles à lever les yeux sur Marie comme modèle des vertus, à poursuivre l'imitation de ses vertus, tout en précisant, en se recueillant avec piété dans la pensée de Marie, qu'elle contemple dans la lumière du Verbe fait homme, l'Église devient sans cesse plus conforme à son époux. En effet, suivre Marie ne peut que nous rapprocher du Christ, nous conduire à faire tout ce qu'il dira. Ainsi, modèle de vie de toute l'Église, Marie est encore maîtresse de vie spirituelle pour chacun des chrétiens. Mais elle est surtout modèle du culte qui consiste à faire de sa vie une offrande à Dieu. Sainte Jeanne et le bienheureux Père Gabriel Maria diraient un plaisir pour Dieu. Comment je vais conclure ? L'Église a toujours eu envers la Mère de Dieu un culte spécial. Depuis le Concile Vatican II et jusqu'au pape François, en passant par Jean-Paul II, cela se vérifie. Selon l'éditorialiste et philosophe Gérard Leclerc, si l'intimité, et je le cite, si l'intimité avec la Vierge est constante chez Jean-Paul II, avec le pape François, elle apparaît au grand jour, dès le lendemain de son élection, quand il va lui offrir un bouquet de fleurs dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Pour ces deux hommes, dit-il, la piété mariale est tout simplement vitale. Il y a dans l'Église un charisme marial sans lequel elle ne pourrait pas vivre. Fin de la citation de Gérard Leclerc. Ce caractère vital de la piété mariale, saint François l'avait bien perçu. Ainsi, dans la salutation à la Vierge sur laquelle nous avons jeté un regard trop bref, il le laisse en effet pressentir. De ce caractère vital de la piété mariale, Gabriel Maria en était convaincu, lui dont la vocation franciscaine a été éveillée par la Vierge Immaculée. Il était ainsi préparé depuis longtemps à comprendre l'intuition mystique de Jeanne et à la mettre en lumière dans l'Église. Fidèle à l'intuition de Jeanne, il y a mis cependant sa marque de théologien et sa marque de franciscain. Du caractère vital de la piété mariale, le chemin des dix vertus évangéliques de la Vierge, tel que le développe la règle de l'Annonciade, en témoigne. En effet, la mise en œuvre des vertus se fait non pas en dehors du réel, mais bien au cœur du réel de chaque jour, au cœur du quotidien le plus heureux, mais aussi le plus rude et parfois le plus dépouillé. C'est un chemin structurant, chemin de conversion personnelle, chemin de connaissance du Christ, de son évangile et de sa mise en œuvre, chemin d'union à Dieu. C'est la vie ordinaire vécue sous le regard de Dieu, en sa présence, à l'exemple de la Vierge de Nazareth. Plus on avance sur son chemin-là, plus on devient capable de vibrer comme les cordes d'un instrument de musique au véritable amour. Cette image musicale n'est pas en effet de style de ma part. Sainte Jeanne et le bienheureux Père Gabriel Maria ont en effet comparé les dix vertus développées dans la règle aux cordes d'une harpe ou d'un psaltérion. L'un les appelle la harpe de la vie et l'autre le psaltérion à dix cordes. Pour eux, les vertus sont considérées comme des moyens de faire chanter nos existences, c'est-à-dire de les mettre en contact avec le véritable amour, sous l'influence de l'Esprit-Saint reçu au jour de notre baptême. Si cela est ainsi, nos pauvres existences humaines tendront à donner le meilleur d'elles-mêmes, à donner un je ne sais quoi, qui laisse pressentir ce qui devait animer l'être profond de la Vierge. Par là, elles plairont à Dieu et Dieu y trouvera sa joie. Comme le disait dans une de ses conférences sur la règle de l'Annonciade de Père Guy Bougerolles, grand spécialiste de Saint Bonaventure, et à qui je laisse le dernier mot. Il y a plusieurs façons de proposer l'imitation de la Vierge, en l'établissant sur des bases théologiques très hautes, ou bien en regardant comment la Vierge a vécu. Ce dernier point est important car il donne à l'Annonciade son caractère de très grande simplicité franciscaine.